Chapitre 11. Le lendemain matin, vers 10 heures, on sonna à la porte du docteur Arvoine. Mademoiselle Caton, qui alla ouvrir, fut surprise de se trouver nez à nez avec Siméon. Elle ne l'avait pas vu d'aussi près depuis des mois. « J'ai quelque chose à dire à Ferdine, s'il vous plaît, mademoiselle. »«
Frédégonde est à ses leçons. Donnez-moi votre message, je le lui ferai. »
« Merci, je désire lui parler à elle-même, en particulier. »
« En particulier, vraiment !»
Mademoiselle Caton ouvrait déjà la bouche pour remettre Siméon à sa place, mais elle s'avisa tout à coup qu'il avait presque l'air d'un homme et que, peut-être, il ne se laisserait pas traiter comme un bambin.
« Frédégonde est dans la chambre de monsieur le docteur » dit-elle d'un ton maussade, mais en se reculant pour laisser passer Siméon.
Puis elle rentra dans la chambre à manger, où elle se tenait d'ordinaire.
« Que peuvent-ils bien avoir à se dire ? » pensait-elle intriguée.
« Gageons que Siméon a eu une affaire avec le vieux Charlet et qu'il vient la raconter à Frédégonde.
Ils se racontent tous, ces deux êtres-là. Je leur donne 10 minutes, pas une seconde de plus. »
Au bout de 10 minutes, Siméon était encore là. Alors mademoiselle Caton n'y tint plus. Elle sortit impétueusement de la chambre à manger et pénétra comme une bombe dans le cabinet d'études.
« Je lui en parlerai à midi, » disait Ferdine.
« J'y compte, » répondit Siméon, qui prit son chapeau et s'en alla. Mademoiselle Caton n'en sut pas davantage. Chez le docteur, comme dans toutes les maisons du village, on dînait à midi. À la fin du repas, Ferdine, qui avait été jusqu'alors très silencieuse, s'adressa à son père d'une voix un peu hésitante.
« Papa, Siméon désire te demander un conseil. Quand pourrait-il te voir ?»«
Un conseil ? À quel sujet ?»«
Il t'expliquera cela. C'est une chose importante, » ajouta-t-elle, si émue que son père la regarda avec étonnement.
« Qu'il vienne tout de suite, dans ce cas. Va le chercher. » Quand Siméon se trouva devant le docteur, dont la figure froide et sévère lui avait inspiré dès son enfance un sentiment de respect mêlé de crainte, il eut un moment de vive émotion. La démarche qu'il allait faire lui parut tout à coup puérile, insensée. Il chercha des yeux Ferdine, qui s'était blottie dans un coin sur une chaise basse. Elle semblait elle-même fort anxieuse. Le docteur, assis devant son bureau, jouait distraitement avec un coupe-papier.
« Eh bien, Siméon, » dit-il enfin.
Sa voix était bienveillante, elle rendit quelque courage aux deux enfants.
« Tout à l'heure, avant d'entrer, je croyais être sûr de mon fait, » dit Siméon. « Maintenant, je ne sais, mon idée n'a peut-être pas le sens commun. »«
C'est ce que nous allons voir. À quoi se rapporte-t-elle, ton idée ?»«
Je désire poursuivre mes études. » Ferdine m'a donné des leçons de latin, nous avons imaginé plusieurs choses pour mettre de l'argent de côté, mais ça n'a pas réussi bien brillamment. Hier, enfin, j'ai fait par hasard une découverte qui... peut-être...
Il s'arrêta, il avait décidément la gorge trop serrée pour poursuivre. Le docteur gardait son air froid, distrait. Il ne devinait nullement où Siméon voulait en venir. Celui-ci tira de sa poche une petite bouteille soigneusement bouchée qu'il posa sur le bureau. Elle était pleine d'une eau blanchâtre.
« Qu'est-ce que cela ? » demanda M. Arvoine.
« C'est l'eau d'une source chaude, 57 degrés à l'endroit où elle sort de terre. J'y suis allé ce matin avec un thermomètre. »«
Une source chaude ? » répéta le docteur. « Où cela ? Qui l'a trouvée ?»
« C'est moi, » dit Siméon, recouvrant quelque assurance lorsqu'il vit que l'intérêt du docteur s'éveillait. « Nous nous promenions hier, je suis descendu dans la combe qui est au revers des Seignes. Personne n'y passe jamais, car elle ne conduit nulle part, mais j'y avais perdu mon couteau avant Noël. Je l'ai retrouvé tout à côté d'un gros filet d'eau où j'ai trempé les doigts par hasard. C'était chaud. J'ai compris alors pourquoi la neige était si molle à cet endroit l'hiver dernier. » Elle fondait en dessous, c'était comme une caverne dont j'ai enfoncé la voûte en mettant le pied dessus.
M. Arvoine déboucha la petite fiole et versa quelques gouttes du contenu dans sa main.
« Tu désires que j'analyse cette eau ?»«
Oui, et que vous me disiez si ma découverte vaut quelque chose. »
La réponse dépend non seulement du résultat de l'analyse, mais aussi de l'abondance de la source.
Je l'ai mesurée approximativement, répondit Siméon. Je la crois de 20 à 30 litres par minute. En creusant, on trouverait peut-être d'autres filets. Le terrain appartient à la commune, poursuivit-il, et voici le plan que j'avais fait. Il me faut 500 francs pour la première année de mes études. Je demanderai au conseil communal de m'accorder cette somme en échange de mon droit sur la source, si j'y ai un droit quelconque. Me confies-tu la direction de cette affaire ? Demanda le docteur Arvoine en se levant. Assurément, s'écria Siméon. Bien, viens donc me prendre demain de très bonne heure. Nous visiterons la source ensemble. Le soir, le conseil communal aura une séance dans laquelle je te représenterai. Ferdine compta toutes les heures de cette journée et de la suivante. Comme elle guetta les allées et venues de son père, comme elle examina son visage et combien elle eût souhaité qu'il lui permît d'entrer dans son petit laboratoire, pendant qu'il analysait avec soin et lenteur le contenu de la précieuse fiole. Mais elle ne sut rien jusqu'au soir. « La qualité de l'eau est bonne, » dit enfin le docteur, à souper, en réponse à un regard qui l'interrogeait anxieusement. « Mais il faut encore que la quantité soit suffisante pour que la commune fasse les frais. » Puis il ajouta quelques phrases où il était question de sulfate, de phosphate et de guérison des rhumatismes. Il avait l'air satisfait. Ferdine, en sortant de la chambre à manger, sauta au cou de Mademoiselle Caton. « Avez-vous quelquefois des rhumatismes, chère bonne ? » s'écria-t-elle en l'embrassant. « Des rhumatismes, moi, jamais !» répondit Mademoiselle Caton, qui était fière de sa belle santé. « Quel dommage !» dit Ferdine d'un ton de profond regret. « Frédégonde !»« Je dis cela parce que je sais un remède. Oh, mais un remède ! Plus de rhumatisme, plus de rhumatisme » cria-t-elle en dansant autour de la chambre. Mademoiselle Caton lui jeta un coup d'œil absolument effaré. Décidément, cette fillette avait des moments de délire. Le lendemain, Ferdine s'éveilla de très bonne heure en entendant son père sortir de sa chambre et traverser le vestibule. Elle prêta l'oreille. La porte d'entrée s'ouvrit, le pas du docteur descendit, sonore, les marches du perron, puis un léger bruit de voix s'éleva. « Siméon est là, il attendait, » pensa Ferdine. « Et il croit peut-être que je vais rester tranquillement ici, comme une poupée qu'on laisse sur une chaise, jusqu'à ce qu'il leur plaise de venir me donner des nouvelles. » Elle se leva, s'habilla à la hâte, ouvrit doucement sa fenêtre. Le ciel était gris encore, d'un gris sans lumière et comme endormi. Sous l'avant-toit, les moineaux commençaient à piailler et à se demander les uns aux autres où le déjeuner serait servi ce matin-là. Serait-ce dans la cour du Cheval Blanc, où des voituriers s'étaient arrêtés la veille et où l'on trouverait sans doute bien des grains d'avoine répandus à terre, ou bien devant la porte du boulanger, au moment où la matinale boulangère balaie sa boutique et jette des miettes croquantes sur le seuil. Cuit, cuit ! Ferdine et Siméon s'étaient amusés bien souvent à écouter ensemble la conversation des moineaux et ils avaient fini par s'imaginer qu'ils la comprenaient. Cuit, cuit, cuit ! Ils se disent, pensa Ferdine avec un léger frisson, que l'air est joliment frais ce matin. Elle prit un châle de laine dans sa commode, puis descendit l'escalier à pas de loup. Son dépit fut grand quand elle découvrit que son père avait refermé du dehors la porte d'entrée. Quel ennui, se dit-elle, je vais avoir à passer par la cuisine et Mademoiselle Caton se réveillera exprès pour me chapitrer. Avec des précautions infinies, elle traversa le vestibule, la cuisine, ouvrit la porte qui était fermée au verrou et sortit en courant, sans songer que quelque vaurien pouvait l'apercevoir, trouver l'occasion bonne et pénétrer dans la maison pour voler les couverts d'argent et les serviettes. Heureusement, il y avait fort peu de vauriens dans le tranquille village. Peut-être Ferdine se disait-elle aussi que les vauriens n'ont pas généralement des habitudes fort matinales et que les braves gens seuls trouvent du plaisir à voir se lever le soleil. Mais il est plus probable que Ferdine ne réfléchissait à rien de tout cela. Elle marchait très vite, sans courir cependant, car elle craignait d'être renvoyée à la maison si elle rejoignait son père trop près du village. Elle le voyait à une assez grande distance sur la route solitaire des Seignes. Il causait avec Siméon, elle pouvait le deviner à ses gestes. De temps en temps, il s'arrêtait et elle tremblait qu'il ne se retournât. Enfin, quand elle arriva au sommet de la montée, elle prit son courage à deux mains et appela « Papa, papa, Siméon !» Étonnés, les deux marcheurs s'arrêtèrent. Ferdine se mit à courir. « Papa, laisse-moi aller avec toi. C'est affreux de rester toute seule et de ne rien savoir. » Le docteur sourit et passa la main de sa fille sous son bras. Le récit que Siméon venait de lui faire des péripéties de cette dernière année, pendant laquelle ses enfants sans expérience avaient lutté avec leurs difficiles problèmes, lui révélait chez Ferdine et Siméon toute une vie, des sentiments et de la volonté qu'ils se reprochaient de n'avoir pas même soupçonnés. Mais s'ils regrettaient de n'avoir pu diriger ce développement subit du caractère de sa fille, ce n'était pas sans un intime plaisir qu'il le constatait. « Elle a de l'étoffe, pensait-il, elle sait vouloir. Quant à Siméon, que sa source soit un pactole ou qu'elle ne se trouve bonne qu'à arroser les prés, il achèvera ses études, c'est moi qui m'y engage. » « Bonjour, Siméon !» dit Ferdine en pressant joyeusement d'une main le bras de son père et en tendant l'autre à son ami, qui la serra sans dire grand-chose. Il était fort sérieux et inquiet. Il attendait sa sentence. Au milieu des prés couverts de rosée, ils descendirent silencieusement, prenant quelques précautions pour n'être pas vus de la maison des Seignes, jusqu'au bouquet de sorbier. « Nous y voici !» dit Siméon en s'agenouillant sur l'herbe. Il mit sa main dans le filet d'eau chaude, la laissant couler entre ses doigts d'un air absorbé. Le docteur Arvoine s'était placé à côté de lui et examinait le terrain. Il se sera produit quelques perturbations intérieures, quelques glissements des couches souterraines, dit-il, qui aura refoulé cette source, l'obligeant à chercher une issue au dehors. La carrière de la commune, qui n'est guère qu'à une demi-lieue d'ici, a été disloquée l'an dernier par des mines trop chargées. L'ébranlement des terrains peut s'être fait sentir jusqu'ici. La source coule bien, d'un beau mouvement régulier, ajouta-t-il en tirant sa montre pour calculer approximativement le volume d'eau à l'aide d'un grand récipient en caoutchouc qu'il avait apporté. Ferdine, silencieuse, osant à peine respirer, suivait cette opération en souhaitant avec ardeur que la source coulât plus vite quand elle devrait pour cela se déranger un peu. « Prends donc garde, Siméon !» s'écria-t-elle enfin. « Tu en perds des quantités, tu tiens mal le seau, l'eau s'échappe à droite et à gauche. Papa, je suis sûre qu'il s'en est perdu au moins la moitié. » « Même en ne tenant compte que de ce qui est entré dans le seau, dit le docteur, nous aurions lieu d'être satisfaits. La commune ne perdra pas son argent en exploitant cette source. Siméon, je bois au succès de tes études. » Et le docteur, prenant dans le creux de sa main un peu de cette eau fortement sulfurée, la but d'un air de grande satisfaction. Ferdine et Siméon l'imitèrent, celui-ci avec une émotion qu'il contenait à peine, Ferdine avec une grimace involontaire. Elle n'aurait jamais cru que cette onde providentielle pût avoir un aussi mauvais goût. « Ferdine, c'est toi qui baptiseras la source !» dit subitement Siméon. « Oh, que tu es gentil !» s'écria-t-elle. « Rien ne saurait me faire un plus grand plaisir. Veux-tu que nous l'appelions Ferdine ?»« Oh non, ce serait par trop intimidant. Attends un peu, j'ai une idée. Donnons-lui un nom qui parle de toi, de moi, d'Ernest. Appelons-la Feuille de Trèfle. Cela nous ferait penser aussi à ta tante qui nous a donné ce surnom. » Elle chercha des yeux autour d'elle et trouva bientôt une plante de trèfle qu'argentait la rosée. Vite, elle en cueillit un brin et le posa sur le bassin grand comme une coupe, d'où l'eau s'épandait. « Source, dit-elle, tu t'appelleras Feuille de Trèfle. Pour Siméon et pour moi, et pour la bonne tante Cornélie, tu es le trèfle à quatre feuilles. Nous te remercions et nous remercions le bon Dieu, » ajouta-t-elle d'une voix qui se mit tout à coup à trembler très fort. Quand ils reprirent le chemin du village, causant de projets d'avenir, le soleil illuminait les prairies, d'où la rosée montait en brume transparente, et les sommets frangés de sapins et le clocher du village, qui brillait seul au milieu des toits encore baignés d'ombre. Cette lumière matinale, limpide et joyeuse, semblait à Siméon illuminer devant lui toute sa future existence. Ferdine aurait donné tout au monde pour entendre le discours que fit son père au conseil communal, assemblé le soir de ce jour mémorable, ou seulement pour obtenir qu'il le lui répétât. Mais quand elle descendit le lendemain matin, le docteur avait été mandé auprès d'un malade. Il ne parut pas au déjeuner. Heureusement, Ferdine recueillit des échos des événements de la veille dans les conversations fiévreuses, dans les conciliabules prolongées qui se tinrent un peu partout et particulièrement au coin de la place, juste sous les fenêtres de la chambre à manger. « Oh, mademoiselle Caton, entendez-vous ce qu'ils disent ?» s'écria Ferdine en jetant de côté son plumeau pour entrouvrir les persiennes et écouter plus commodément les débats d'un groupe animé dont le centre était Madame Benoît, la femme d'un conseiller municipal. Mademoiselle Caton, consciente d'un article du règlement qui disait « Ne pas perdre son temps à regarder par la fenêtre », hésita d'abord, puis songea qu'il est des circonstances où une infraction aux règles peut se justifier. Depuis la visite de Siméon à Ferdine, l'avant-veille, Mademoiselle Caton sentait dans l'air des agitations, du mystère, de l'inouï. Le soir précédent, elle avait entendu du bruit dans la rue jusqu'à passer 10 heures. Le docteur était rentré fort tard de la séance du conseil. Ferdine était tout électrisé et ne tenait pas en place. De plus, le village était en rumeur. On voyait les ménagères sortir précipitamment à la rencontre de leurs voisines. Il y avait un groupe sur le seuil du boulanger, une queue de 4 personnes à la porte du bureau postal. Il tardait à Mademoiselle Caton d'en avoir fini avec ses occupations du matin et de sortir à son tour pour entendre les nouvelles. « Peut-être qu'on annonce une guerre, » dit-elle en s'approchant de la fenêtre où elle s'accouda à côté de Ferdine. « Non, non, ce n'est pas cela, » dit celle-ci à demi-voix. « C'est Siméon. Chut !» La femme du conseiller parlait au milieu d'un grand silence. « Mon mari n'en a pas fermé l'œil de toute la nuit, » disait-elle. « Vous comprenez que cela peut avoir des conséquences extraordinaires pour le village. Il faudra bâtir. »« Ça me va, » interrompit le maçon marbrier, qui n'avait d'autre besogne dans ce petit endroit stationnaire que des réparations de murailles et, de temps en temps, l'érection d'une pierre funéraire. « Tout d'abord, reprit Madame la conseillère, le président n'en croyait pas ses oreilles. Mais le docteur Arvoine est un homme sérieux. Où il passe, la commune passera. Il a présenté la chose sans nommer personne pour commencer. « Messieurs, a-t-il dit, une découverte qui peut devenir pour notre localité d'une importance capitale est arrivée à ma connaissance. » « On devrait vous nommer rapporteur du conseil, madame. Vous avez une mémoire ?» dit le frère de l'instituteur, qui était considéré comme l'homme le plus poli du village. Madame Benoît sourit gracieusement. « Le compliment est à l'adresse de mon mari, dit-elle, car c'est lui, naturellement, qui m'a répété le discours. Monsieur le docteur a ensuite déclaré qu'il se portait garant de la valeur de la découverte et qu'il serait le premier, si on émettait des actions, à en prendre. » Mais qu'avant de ne rien savoir de précis, la commune devait s'engager à payer une somme de 1 000 francs la première année et de 500 francs pendant les 3 années suivantes à la personne qui détenait le secret, dans le cas où ce secret serait reconnu par des gens compétents comme pouvant représenter pour la commune un capital de 50 000 francs, soit 2 000 francs de revenus. Madame la conseillère, parvenue au bout de sa phrase, dressa la tête avec une certaine satisfaction et jeta un regard circulaire sur ses auditeurs, tous suspendus à ses lèvres. « Et puis, vous imaginez bien qu'une si grosse affaire ne passe pas comme une lettre à la poste. On avait un peu peur, la chose n'était pas claire. » On pensait bien pourtant que monsieur le docteur ne voudrait pas lancer la commune dans des difficultés, on le pria d'en dire plus long. Alors il déclara qu'il s'agissait de l'exploitation d'un trésor ignoré et tout le monde crut qu'il avait trouvé une mine d'or dans les prés de la commune. Cela fit un grand effet. Le président prit la main de monsieur Arvoine en lui disant « Docteur, j'ai confiance en vous ». Les autres membres ne voulurent pas être en reste, ils dirent qu'ils étaient prêts à signer, pourvu qu'il fût bien entendu que la découverte devait valoir au bas mot 50 000 francs et qu'on ferait venir des experts. Mais est-ce bien vraiment une source chaude, bonne pour les rhumatismes ? Demanda le petit cordonnier, pressé d'arriver au point intéressant. Madame Benoît, mécontente de cette interruption qui lui écornait son récit, fut un grand moment avant de répondre. « Il ne faut pas, dit-elle, vouloir aller plus vite que les violons. » Ferdine, derrière les persiennes, écoutait, jubilait, et, de temps à autre, poussait du coude Mademoiselle Caton pour la rendre attentive aux passages intéressants. Ce soin était superflu, d'ailleurs. Mademoiselle Caton était tout oreille. « C'est en effet une source chaude, reprit Madame la conseillère, et d'une eau qui est assez mauvaise à boire pour faire beaucoup de bien. Dans certains cas, on la boit, dans d'autres, on s'y baigne, cela dépend. Nous aurons du monde de partout. Il paraît que c'est de l'eau qui cuit comme cela dans le centre de la terre, et puis qui fait son chemin comme elle peut, jusqu'à ce qu'elle trouve un trou pour sortir. » « Mais comment Siméon Taubert s'y est-il pris pour la découvrir ?» demanda quelqu'un. « Le docteur n'a pas expliqué cela. On suppose que Siméon, qui est très instruit et toujours à farfouiller dans la nature, a, un beau jour, appliqué son oreille contre la terre et qu'il a entendu le glouglou de cette eau qui demandait à sortir. Alors, il lui a fait un trou. « Ce n'était pas malin, » dit le fils de l'aubergiste du Cheval Blanc, affligé d'une maladie de foie qui le rendait grincheux. Encore fallait-il y penser. C'est l'histoire de l'œuvre de Christophe Colomb, fit observer le frère de l'instituteur. En fin de compte, reprit Madame Benoît, voilà Siméon Taubert à la tête d'une jolie rente qui durera 4 ans et lui permettra de s'instruire dans tout ce qui concerne les bêtes, les plantes et les pierres. Il paraît que c'est son goût, les pierres spécialement. Mon mari assure qu'il fera un jour honneur à la commune. Ferdine jeta un regard joyeux et triomphant à Mademoiselle Caton, qui n'en revenait pas de tout ce qu'elle entendait. « Siméon, une rente, des études, partira-t-il bientôt ?» demanda-t-elle à Ferdine. Partir. Jusqu'ici, Ferdine n'avait pas donné une pensée à cette réalité prochaine et inévitable, le départ de Siméon. Elle n'avait pensé qu'à la joie du succès. Elle savait bien, pourtant, qu'il fallait aller chercher la science dans une grande ville, mais son esprit n'avait fait qu'entrevoir ces complications nuageuses derrière le but auquel elle tendait depuis de longs mois. Partir. En cet instant, la porte de la chambre à manger s'ouvrit et Siméon entra avec le docteur. « Félicite ce jeune héros, » dit M. Arvoine en poussant Siméon vers sa fille. « Depuis ce matin, il donne tort au proverbe, car le voilà prophète en son pays. J'ai cru que nous n'arriverions jamais de chez Mademoiselle Cornélie jusqu'ici, tant ses concitoyens se l'arrachaient. « Oh, Siméon, je suis si heureuse !» s'écria Ferdine en fondant en larmes. « Il faudra donc que tu partes ?» Ce discours légèrement incohérent n'étonna pas beaucoup Siméon, car depuis la veille, il s'en tenait de tout semblable. « Assurément, il faudra qu'il parte, et le plus tôt possible, pour ne pas manquer l'ouverture des cours, » dit le docteur. « Mademoiselle Cornélie a déjà descendu une grande malle du grenier. »« Allons voir, tante Cornélie !» murmura Ferdine, la figure cachée dans son mouchoir. Elle sortit, suivie de Siméon, qui n'avait pas la ressource des larmes pour exprimer la complexité de ses sentiments et qui se sentait gauche, stupide, malheureux. Son cœur plein de reconnaissance, de regret, de joie, de tristesse, d'espoir, ne trouvait pas un mot, pas un cri, et se gonflait comme s'il allait éclater. « Ferdine !»« Eh bien » fit-elle en se tamponnant les yeux. « Allons nous asseoir un moment sur le mur du jardin. » Silencieusement, ils traversèrent les allées et se perchèrent au sommet de l'observatoire d'où ils avaient si souvent surveillé leur domaine. « Te souviens-tu du jour où tu m'as appris à sauter ?» dit Ferdine au bout d'un moment. « Et à rire !» ajouta Siméon. « C'est drôle pourtant que j'ai appris cela à quelqu'un. Je ne suis pas un rieur de nature. »« Non, tu as toujours été un homme sérieux. Tu m'écriras, n'est-ce pas, Siméon ?»« Cela va sans dire, » répondit-il de ce ton que Ferdine trouvait trop peu dramatique. « Mais tout, tout, entends-tu ?» « Moi, je tiendrai mon journal et je te l'enverrai. Mais les petites affaires du village ne t'intéresseront plus. » Au lieu de protester immédiatement, Siméon se tut pendant plusieurs minutes. « Tante Cornélie, toi et Ernest, vous serez toujours ce qui m'intéressera le plus au monde. Ferdine, je voudrais pouvoir exprimer combien je te dois, pour tout, pour tout. » « Non, non, je t'en prie !» s'écria-t-elle en étendant la main, comme pour repousser ses paroles. « Non, j'ai été si méchante, tu sais, le jour où j'ai appris que tu quittais l'école. » Puis, avec la rapidité de transition qui lui était ordinaire, elle s'interrompit.
« Mais le vieux Charlet, te laissera-t-il partir ? Que dit-il de tout ceci ?